previously broadcast program.
Sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Vous écoutez le lendemain de la veille et c'est Marc-André au microphone. Et comme j'aime réinviter mes amis, on est avec Matt Rock. Bon matin, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci. Merci pour ce séjour au microphone.
Yes.
Ça va tellement bien que j'ai préparé un truc un peu plus électro, new wave, synth-pop ce matin. Pour faire un peu changement du punk et des émissions précédentes.
Et c'est toujours de la musique locale, c'est ça qui est assez incroyable. Ça
ouais.
a un son un peu international, un peu plus.
Oui, tout à fait. C'était le groupe Rational Youth qui s'auto-proclamait un peu les Kraftwerk montréalais. Et c'est un power trio strictement électronique. Puis c'est j'oserais pas dire que c'est un des premiers, mais c'est dans les très pas mal un des premiers groupes électroniques montréalais. Et puis ça s'apparentait avec toute la scène de synth-pop de l'époque. Puis ce groupe est majoritairement anglophone. D'ailleurs, un des claviéristes est professeur à l'Université Concordia en design sonore, si je me trompe pas. En tout cas, bref.
Est-ce, le groupe existe toujours ou non?
Ils ont fait certaines réunions, il n'y a pas si longtemps. Avant la COVID, ils ont fait une réunion à la Sala Rosa. Oui, ils se reproduisent encore sur scène. Ces groupes-là de synth-pop, Men Without Hats aussi, continuent à se produire sur scène. C'est des bons chums aussi. La scène New Wave québécoise était quand même, étant très petite, c'est pas long, tu fais le tour puis que tout le monde se connaît.
Oh my God, là tu me donnes un flashback ce matin en déjeunant dans mes céréales. J'ai un flashback incroyable. Men Without Hats, Safety Dance.
Oui.
Que tu joues parfois en VJ, souvent.
Tout le temps, oui.
Tout le temps.
Oui.
Puis la vidéo, il est-tu hallucinant?
Ben clairement. Puis d'ailleurs, il y a un documentaire d'Éric Simon qui s'appelle MTL New Wave.
Ouais.
Puis Ivan, le chanteur de Men Without Hats, explique que quand la compagnie leur a demandé de faire un vidéoclip, ils s'attendaient d'avoir un vidéoclip avec des gros cheveux, avec du spray net, avec des côtes de cuir, avec plein de zippers. Puis finalement, ils ont fait non, on va aller en Angleterre, dans un village médiéval, faire un clip médiéval qui a complètement aucun rapport avec le New Wave. Mais c'est ce qui fait toute la beauté de cette vidéo-là.
Puis ça marche au bout, puis je pense, je vais massacrer son nom, Yann Dorotchuk, le chanteur principal.
Oui.
Il y a une chemise blanche à foufrou.
Oui, oui.
Puis ben il y a une veste, puis il y a une personne de petite taille aussi. c'est kitsch, mais c'est un classique, là.
Oui.
Puis beaucoup de monde ne savent pas qu'ils sont Montréalais et Canadiens.
C'est clair.
Parce que c'est un hit planétaire.
Ouais, hein? C'est international. Puis d'ailleurs, ça a été tellement un overnight success que le tournage du vidéoclip s'est fait en claquant des doigts. Ils les ont envoyés en Angleterre en Concorde pour tourner dans les plus brefs délais parce que la tune était déjà un numéro un dans plusieurs radios.
Le hit était chaud, puis ouais. C'était le temps de battre le fer pendant qu'il est chaud.
Qu'il est chaud, exactement.
Oh my God. Ben, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui pour l'émission?
Ben là, je m'en allais me diriger. Ben en fait, je vais mettre plusieurs pièces de toutes les sphères de la francophonie. Je vais pas faire seulement québécois comme dans les deux émissions précédentes qu'on a faites ensemble. Mais je vais faire jouer le dernier groupe québécois de ma sélection qui s'appelle ICO. IKO, et j'essaie de prononcer le nom comme du monde. Ça s'appelle Gonadotropic Synthesis. Et c'est un groupe qui a décidé de faire une chanson d'amour, mais au lieu d'y aller dans l'action de l'amour puis du cœur, ils sont allés dans l'action scientifique de faire l'amour. Donc, ils vont décrire le lovemaking dans des termes scientifiques.
Le côté chimique.
Le côté plus charnel, disons.
Passons à l'action.
Direction.
Thank you.
pousser pour réveiller. Et bon matin, on est toujours au lendemain de la veille. Mathieu, wow, c'était la toune, je pense, la plus longue qu'on a fait jouer à date. Explique-nous ça.
C'est effectivement la chanson la plus longue de mon set. Je suis habitué de faire jouer les tounes de punk de 2 minutes et demie. Là, c'est une pièce de 7 minutes 18. C'est la formation ICO avec, je sais pas si je vais me tenter de prononcer le nom de la chanson. Mais en tout cas, bref, c'est une chanson qui parle de l'acte physique, sexuel, mais expliqué de façon complètement scientifique. Et on peut retrouver un extrait de cette chanson d'un vidéo dans le film de Éric Simon qui s'appelle MTL New Wave et qui est un des meilleurs films documentaires québécois que j'ai vu sur un genre musical. Et c'est ça, mais bref, je voulais faire changement un peu du punk, puis je suis un gros nerd de New Wave, j'aime beaucoup les synthétiseurs analogues, et je suis un gros geek de ça, et j'avais vraiment besoin d'avoir ma dose ce matin.
Ben excellent, je pense que ça va, pour une fois, on n'est pas trop dans le tapis, là. Le monde vont relaxer en déjeunant. Et mais c'est ça, tu es presque un instigateur de documentaires, tu bouleverses les réalisateurs, tu leur pousses le comme au coin du mur, là, puis tu leur poses des questions, puis tu dis, c'est quand est-ce le prochain documentaire sur telle scène, ou quand est-ce que va sortir la suite de... Fait que là, ça, c'était plus sur le New Wave?
Oui, sur le New Wave, tout à fait.
Et là, sais-tu en quelle année, 2016?
Oui, je pense que c'est sorti en 2016, parce que le premier MTL Punk était sorti, si je ne me trompe pas, vers les 2012, dans ces coins-là. Okay. Et puis c'est le même réalisateur, c'est Éric Simon. Et c'est ça, c'est vraiment dans la période de Q&A que j'ai demandé s'il allait faire une suite au MTL Punk. Et à ma grande surprise, ben il l'a sorti.
Il est arrivé avec ça, il disait « je t'ai fait un documentaire
». Puis après, quand le documentaire est sorti, ben il dit « c'est grâce à toi Mathieu si j'ai sorti » parce que j'avais même pas pensé à faire une suite.
OK, fait que là, puis là je pense... t'en as provoqué un troisième.
Oui, tout à fait. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. Ouais, par contre, il y a un troisième qui est en cours et vous n'allez pas être déçu.
Je vais passer par toi pour passer le message. Moi, j'en veux un sur la scène hardcore montréalaise.
Shit! Il y en a eu un, mais il était tellement mauvais. Ils ont sorti un documentaire. Ça avait joué au Catacombes. Et mais en tout cas, moi, je suis pas allé le voir perso, mais mes amis, c'est sûr que quand on revient sur la scène hardcore de Montréal dans les années 80, il n'y a pas beaucoup de footage. Puis s'il y en a, ils sont en qualité vraiment pas super. Là. C'est pas du 4K, c'est sûr. Là.
Ouais,
mais c'est pas champion. Puis tu sais, le peu de gens qui avaient des caméras vidéo à cette époque-là, surtout dans une scène où le budget est limité, en tout cas, c'est pas la meilleure définition. Mais je veux pas trop descendre le film que j'ai pas vu là, parce que c'est rare que je parle à travers mon chapeau dans la vie. J'aime ça être en connaissance de cause. Mais bref, oui, il y en a
mais un. Mais il y a de la place pour d'autres. Il y a de la place pour d'autres, autre, de toute façon. Ouais, c'est tout ça. Fait. Même plusieurs, tu sais, il pourrait y avoir plein de réalisateurs qui font sur un même sujet. Ouais. Ça serait des angles de vue différents. Il y en a qui seraient des talking heads. Des autres, ce serait plus du footage. Mais moi, je trouve, j'ai découvert la scène Montreal Hardcore en écoutant des gens plus vieux que nous qui avaient déjà des chandails ou des patchs sur leur côte de scum. De Genetic Control, No Policy, tout ça. Et je veux dire, nous autres, on était des ticus, puis on les regardait, puis on voulait savoir c'est quoi ça. Puis nous autres, on après ça, on a découvert, on va dire, je sais pas si on peut dire que c'est une deuxième vague, mais tu sais, toutes les Infamous Bastard, un autre scène, puis on était tellement comme intéressés, on était tellement surpris qu'il y avait une scène punk locale, qu'on était, on voulait savoir c'était qui, on voulait savoir où est-ce qu'ils jouaient, puis ce serait le fun qu'il y en ait un là-dessus et même un sur peut-être une scène plus petite encore, le Psychobilly, un autre, le heavy metal au Québec. Je veux dire, c'est tellement fort le heavy metal dans toute la province du Québec, ça en prend un.
C'est clair, tout à fait. Ben, il y a un livre en tout cas qui a été écrit par Félix Bédé-Fossé qui est...
L'évolution du métal au Québec.
Exactement.
Qui est excellent.
Oui.
Qui a peut-être une suite, je pense, qui est en cours.
Oui, il y a une suite en cours. J'ai passé du temps avec Félix Bédé-Fossé. En fait, si j'ai ma job à la Roquette en ce moment, c'est grâce à Félix Bédé-Fossé, parce que quand il a décidé de quitter pour Bande à part, quand ça prenait trop de son temps, il a dit la seule personne qui pourrait me remplacer comme DJ, ça serait Mathieu Bourséjour.
Ben, on le salue, puis on le remercie. Mais je savais pas qu'il était DJ, par exemple.
Oui, okay. Oui, il était DJ à Roquette. En fait, la Roquette, c'est René, c'était le Big Cheese avant. Puis avant d'être le Big Cheese, c'était toute la gang qui était au Balafri sur Ontario, qui est devenue une distillerie, qui est juste en face du Cégep du Vieux-Montréal. Et c'est ça, Félix, avec toute sa gang de punk hardcore de Rouyn-Noranda, c'est eux qui avaient créé la compilation RNHC, Rouyn-Noranda Hardcore. Et moi, ça m'a bien marqué, cette compilation-là. Je la faisais jouer religieusement à CISM parce que je savais même pas qu'il y avait du hardcore qui se faisait à Rouyn-Noranda. Puis quand j'ai vu qu'il y avait 27 chansons de hardcore faites à Rouyn, j'avais aucune idée que cette scène-là existait. Puis Félix, ça a été un mentor pour beaucoup de ces bandes-là. C'est tous des amis, ils étaient tous super jeunes. Puis mais c'est ça, oui, j'avoue qu'on... On se surprend toujours, mais pour en venir au documentaire, les documentaires sur la musique, c'est quelque chose qui est super important dans ma vie. J'avoue que un documentaire qui m'a vraiment chié sur le cul, c'est le documentaire de Penelope Spheeris, The Decline of Western Civilization,
le
premier volume sur le punk.
Le punk, le premier, c'est le punk, l'autre, c'est le métal.
Ouais. Puis celui sur le punk, ça m'avait vraiment marqué parce que de un, c'est son premier film. Penelope Spheeris, elle a fait par la suite Wayne's World dans les années 90. Elle a fait The Big Green, puis elle a fait des comédies un peu plus
musicales,
mais plus blockbuster, grand public. Ouais. Mais c'est The Decline of Western Civilization, genre de voir Fear, The Germs, voir Circle Jerks, Black Flag, toutes ces bandes-là. Sur le grand écran, en plus, tout tourné en 35 mm. C'est un des meilleurs documentaires punk que j'ai jamais vu de ma vie.
Oui, le American Hardcore.
American Hardcore, c'est très bon aussi, ce documentaire-là. J'ai adoré. Oui, mais en tout cas, bref, il est tellement bon documentaire.
Là, c'est le fun parce qu'on est dans les années qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Là. Ouais. Ça fait longtemps qu'ils sont sortis, mais ça continue, même si vous êtes des fans de métal, de Bay Area, il y en a. Il y a beaucoup de choses sur Amazon, sur des bandes métal, ça, Bay Area, Exodus, Death Angel, name it. Là, c'est bien le fun à regarder. Là.
Même la série punk, la série documentaire punk qui est sortie sur HBO là, un peu avant le COVID, qui vont retracer le punk du proto-punk des Stooges puis des MC5 qui vont jusqu'à la fin du hardcore, et c'est incroyable. Là, c'est super bien fait. Okay. En plus, de voir avec une production HBO comme ça, avec du footage de cette qualité-là, et c'est à voir.
Bon, trouvez sur vos chaînes préférées tous ces documentaires-là. Puis si vous êtes des réalisateurs, il y a des sujets encore à explorer.
C'est inépuisable.
Inépuisable. Mais là, avant d'aller en pause, on peut tout de suite aller dans une autre pièce musicale. Où tu nous emmènes cette fois-ci? Ouais.
Là, on s'en va en France. On va écouter une chanteuse française qui s'appelle Edith Nylon. C'est un peu la reine du post-punk français, mais malheureusement, super méconnue. C'est vraiment du punk avec des synthétiseurs, puis c'est de toute beauté. C'est une super bonne pièce qui s'appelle Avorton de Edith Nylon, tirée de son premier album éponyme en 1979.
Je m'appelle Alice Wu et voici quelques des gros titres récents. Le vendredi, la Cour suprême des États-Unis a révoqué l'arrêt phare Roe v. Wade. Ainsi, il n'existe plus un droit constitutionnel fédéral à l'avortement aux États-Unis. En réponse, des centaines de Québécois habillés en noir ont manifesté contre cette décision devant le tribunal de Montréal le dimanche après-midi. Et la Nation Cree de Chisasibi a annoncé qu'elle ouvrirait la première enquête sur les tombes situées sur les anciennes sites des pensionnats scolaires au Québec. Deux pensionnats ont opéré sur le territoire de cette nation entre 1933 et 1981. Et cet été, 6 salles d'urgence au Québec réduiront leurs heures d'ouverture et seront obligées de refuser des ambulances. Les régions affectées incluent la Chine à Montréal. Ces fermetures partielles sont en raison d'une pénurie de personnel. Il y a 59 000 agents de santé absents au Québec.
Au lendemain de la veille, et je suis Marc-André au MICRO, en la casa, et on a toujours Mathieu avec nous. Mathieu, comment ça va?
Hey, ça va tellement bien.
Bon matin, tout le monde. Réveillez-vous. qu'est-ce qu'on écoutait?
On écoutait la chanson « Avortons » de Édith Nylon, qui est sortie en 1979, d'un album éponyme qui s'appelle...
Elle était assez avant-gardiste, la madame?
Eh, hey, vraiment, sérieux. Ben, tu sais, il y avait une grosse influence, comme toute la scène Rough Trade, la scène post-punk britannique de l'époque, là, les Gang of Four, les Wire, Pop Group. C'est ça. La scène européenne est quand même assez étroitement marquée de ça, qu'à New York, il se passait complètement autre chose avec la scène No Wave, là, avec les Contortions, puis. Teenage Jesus and the Jerks, puis les bands de No Wave.
Là, tu me perds complètement. là-dedans. Je suis perdu dans les nuages. Mais je te suis. Je te suis, puis j'écoute le cours attentivement. Je prends, je note.
Professeur Beau Séjour au micro. Et ben là, on s'en va écouter un autre groupe post-punk français. Ça s'appelle Marie et les Garçons. Et c'est un groupe post-punk, mais avec une grosse influence Velvet Underground. Et. On va écouter la chanson Attitude de Marie et les Garçons au 96.3 FM.
My name's a situation adresse. Père, ma mère, mon père, ma grand-mère.
t'emmène dans des endroits inimaginables. Moi, c'est comme si tu m'ouvrais, là, ta culture musicale est tellement grande que ça m'ouvre là, comme des nouvelles saveurs que je renie là, ce genre de musique-là. Mais dans le fond, on parlait à micro fermé de Pied de Poule, de Mac Douin et les Échalotes, de Je verse des larmes de métal, Norman Broadway, tu me disais que c'est dans Pop Citrouille. C'est quand même dans nous autres, là, c'est dans notre ADN pareil. Là.
C'est clair. Ben, de toute façon, c'était tellement présent dans toutes les radios commerciales de l'époque, tu sais, puis même Claude Rajotte, tu sais, il y avait une émission, c'est quoi, là, de musique New Wave pas mal plus obscure que les gros hits, fait que, cette scène-là de synth-pop, de musique de synthétiseur était tellement omniprésente au début des années 80, puis il y a quelque chose de magique là-dedans, hein, puis... C'est ça, on parlait de métal justement, puis moi j'étais comme un gars New Wave, là. C'est, moi c'est Duran Duran, puis j'écoutais tous les trucs du New Romantic, là, Flocks of Seagulls, des affaires comme ça.
Ouais, puis c'est de la musique comme hypnotisante, hein, quand tu rentres là-dedans, là, tu rentres comme presque en transe, là, ça fait réfléchir à une autre partie de ton cerveau, là.
Clamour.
Mais là, en parlant de métal, puis là, je vois que tu t'es comme identifié étant adolescent, tu sais, on essaie de trouver notre voix, et là, toi, tu te dis, moi, je serais pas métal comme les autres de mon coin, tu as décidé d'être plus électro, new wave, tout ça, mais moi, j'en ai écouté du métal quand j'étais jeune, puis des fois, je renie certains groupes, mais là... Ce que j'ai entre les mains, c'est la pochette de Iron Maiden, The Number of the Beast. La pochette, le visuel, il est hallucinant.
Mais ça.
Puis c'est le 40e anniversaire. Peux-tu croire, ça fait 40 ans que cet album-là est sorti.
C'est
en
fou.
En 82, je ne me trompe pas. Ça fait-tu du sens, non?
Non,
non, ça fait, ça marche pas, mon calcul mental.
Non,
là,
c'est 81, 40 ans. Fait que... Ah non, mais non, c'est... Ouais, ça peut...
On est en 2022.
Oui, t'as raison,
22. Oui, OK. Puis là, je regardais la pochette. T'as Eddie qui contrôle le diable, qui le diable contrôle un plus petit Eddie. Et là, ma fille, je pense qu'elle avait jamais porté attention à la pochette. Puis en déjeunant ce matin, elle a vu des symboles là, qui sont très forts à Iron Maiden, mais qui sont cachés, là, des espèces de cercles, des flèches par en bas. Puis assez bien bidonné sur la photo en arrière, parce que faut dire que le dessin, les pochettes d'Iron Maiden sont très cool, tu sais, des flammes, puis tout ça. Puis c'est comme une peinture, puis tout ça. Mais les gars, dans ce temps-là, le Photoshop n'existait pas. Fait qu'ils sont comme... Ils ont comme été découpés puis collés par-dessus la pochette. Puis là, elle m'a dit, ouais, mais ils ont des jeans de filles puis des chandails de filles. Puis là, elle savait que c'était des gars, mais elle trouvait, tu sais, des skinny legs de jeans avec des Bruce Dickinson. Il y a un espèce de chandail rayé, matelot blanc et bleu rayé. Puis c'est vrai, il y a un petit côté funny. En tout cas, je trouvais ça drôle. Puis sur je pense que c'est sur, je m'en dis Spotify, c'est pas vrai, c'est sur... Discog, il disait que c'était le troisième album metal le plus vendu ou échangé ou tout ça, c'est The Number of the Beast.
Wow.
Fait qu'on souhaite Iron Maiden bonne fête.
Oui, bonne fête.
Puis aussi Deep Purple aussi, c'était le 50e de Machine Head.
No way.
Oui. Un autre gros album que naturellement
ben oui.
Smoke on Water puis Space Trucking qui est très très cool comme tune. Fait
ben
que
oui.
Deux gros albums que c'est leur fête. Fait que on souffle les bougies. Fait que c'était fin de ma parenthèse. Fallait que je reprenne un petit côté métal rebelle.
Juste pour faire un petit retour sur les pièces qu'on a entendues avant, on avait entendu la formation Ruth avec Polaroid, roman photo, et ça, c'est un seul single qui est sorti en 1979. Ils n'ont jamais rien sorti d'autre. Et avant ça, on a entendu Mary les garçons, et ça, c'est sorti en 1977. Donc, le post-punk français était quand même était de connivence avec le post-punk britannique de la même époque.
Je peux rien rajouter de plus. je te crois sur parole. Et là, tu vas nous emmener dans quoi pour les prochaines pièces?
Là, on va être encore plus électronique qu'au début. On s'en va dans... c'est un groupe qui s'appelle Comics, qui ont un seul 45 tours en carrière aussi. Sorti en 1980, ça s'appelle Touche pas à mon sexe. Et ça va être suivi de le groupe belge Telex avec Moscow Disco. We'll be right back.
Sur la piste de danse, bouger, danser. Mathieu est arrivé. DJ Mathieu, qu'a-t-on écouté?
On vient d'entendre le trio belge Telex avec la pièce Moscow Disco. C'est sorti en 1979 sur leur premier album. Et on avait débuté le tout avec la pièce Touche pas mon sexe du groupe Comics qui ont un seul 45 tours en carrière.
C'est des petits comics, on les aime bien. Hey, l'émission roule. En tout cas, on a tellement de sujets. Ben, t'as tellement de sujets, t'as tellement de grande culture musicale. Va falloir que tu reviennes. Je vais te réinviter. Je vais te réinviter. Il y a des bruits dans le studio. Le studio est tellement en feu qu'il est crumbling. Là. Ça va nous tomber sur la terre bientôt. Je vais te réinviter pour une autre émission. On va aller plus dans le punk français. On va aller voir nos petits amis, les Bérus, les Ludwig, les Sheriffs, Parabellum, name it. Tu vas sûrement m'en faire découvrir que je ne connais pas.
Ouais, je vais me spécialiser beaucoup dans la première vague punk français des années 70. Fait que je vais aller plus dans les Metal Urbain, Star Shooter, avec les Asphalt Jungle, qui est le premier band punk du guitariste Eric Tomisco. Aussi le groupe Gasoline avec Alain Kahn, qui est un peu le David Bowie de la France. En tout cas, bref, il y en a en salle du punk.
À découvrir.
Oui.
OK, bon, on va te réinviter pour ça. Puis, probablement aussi pour le disco. Je ne pensais pas faire un fétichisme sur le disco, mais depuis que j'ai... Je savais sans le savoir Giorgio Moroder, l'Italien, le comment on peut l'appeler, ce gourou de...
C'est le gourou, le parrain de l'Italo-disco.
OK, ben ça, je veux cruiser. Non, tu peux cruiser en écoutant cette musique-là parce que c'est la musique disco avec Donna Summer et compagnie, mais je veux creuser un peu pourquoi qui est si spécial, puis surtout...
De la musique électronique, là, l'électropop européen, sont pas tuables.
Ils sont pas tuables. Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur café le matin?
J'en ai aucune idée. La coke?
Il fallait pas dire ça à la radio. Beep, c'est censuré. Non, nous, on est au Perrier ce matin, hein, le lendemain de la veille. Des fois, c'est très important de s'hydrater après avoir sorti en boîte. Et là, dis-moi, quand tu es sur les platines en arrière là, de ton boot de DJ, c'est qui tu regardes là, en premier? Là, on avait déjà parlé. Tu cherches comme c'est quoi? Tu cherches comme le coupable ou tu cherches comme la victime parfaite là, pour tu dis OK, elle, faut que je la fasse danser, faut que je rentre dans sa tête à deviner qu'est-ce qu'elle aimerait.
C'est vrai que les plus anciens DJ d'entendre du Café Central avant que ça s'appelle La Roquette. Ou les plus anciens DJ du Roi Bar me disaient tu vas regarder une personne dans le crowd. Puis ça va devenir magique parce que cette personne-là va se sentir interpellée par rapport à toutes les rythmes que tu mets. Mais aussi, je fais quand même une analyse sociologique en observant tous les t-shirts de band pour me donner des indices sur comment discerner qu'est-ce que je dois mettre et puis filer le crowd. Parce que la lecture du crowd, c'est la plus grande partie du DJing. Si le crowd s'emmerde puis tu le remarques pas, t'es un très mauvais DJ.
OK. Fait qu'il y a comme une complicité, il y a comme un jeu entre les deux, là, sans qu'ils viennent te demander une requête. Comment tu dis en français?
Une requête, oui.
Une demande spéciale. Mais faut t'anticiper ce qui va les faire bouger, cette crowd-là, cette foule-là.
Oui. Tout en train d'anticiper, puis t'sais, toujours le facteur demande spéciale qui fait en sorte que ça te donne des indices sur qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Mais les gens ont tellement des goûts différents dans la vie. Mais il y a des trucs quand même assez rassembleurs qui sont universels. Entre autres, le Motown, la musique soul. J'en ai mis dans pratiquement toutes les parties que j'ai faites. Puis je suis un gros fan de la scène mods britannique. Puis les Britanniques trippaient beaucoup sur le Northern Soul, la musique soul américaine. Puis c'est tout le temps un super groove qui est universel, qui va rejoindre tous les âges, qui va faire danser. Puis même les plus jeunes vont reconnaître ces pièces-là à cause que ça joue dans des films récents.
Ah oh ouais, puis TikTok, puis toutes les
entre autres aussi.
C'est vrai. Ouais. Ok, c'est un bon truc. Fait que c'est ça. C'est une bonne façon de propager la musique. Puis on peut appeler ça comme des sure shots, là, des pièces que tu peux pas te tromper avec ça, là, généralement.
Ah, c'est clair. C'est sûr que quand on a un dance floor aussi, surtout dans un cas d'un DJ rétro comme moi, les gens adorent chanter les paroles des tunes qu'ils connaissent. Puis même s'ils connaissent pas la chanson, ils l'ont déjà entendue à quelque part, soit dans un film, soit dans une publicité. C'est comme les vieux hit funk, du Rick James, ils vont reconnaître le riff de la tune de MC Hammer ou quelque part d'autre. C'est tellement échantillonné dans les pop aujourd'hui aussi, puis dans les pop du passé que c'est toutes les Parliament, tous les projets de George Clinton, les funkadéliques.
Ça s'est retrouvé dans le G-Funk.
Ça s'est retrouvé dans les tunes de Dr. Dre puis de Snoop Dogg, fait que on les reconnaît.
C'est drôle hein, quand quelqu'un dit « Ah, ça, c'est... je reconnais ça. » Ils disent comme l'interprète le dernier, mais ils savent pas comme la source
de où est-ce que ça vient. C'est vrai, ça arrive souvent.
C'est ça qui est drôle.
Mais en même temps, c'est fun des éduqués. On dit souvent que les DJ, c'est pas notre rôle des éduqués. Mais dans un contexte comme moi, que je suis dans des bars très nichés, que c'est fréquenté par beaucoup de musiciens, ça fait toujours plaisir, au lieu de te faire dire mais ça, on se fait demander c'est quoi qui joue, puis ça, c'est beaucoup plus valorisant en tant que DJ.
Ouais, c'est comme tu es allé chercher quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu.
Exactement.
Avant. Puis là, ça
comme les rejoint.
Oui, ça les rejoint. Il nous reste du temps, il nous reste un gros 4 minutes. Est-ce qu'on a une petite pièce qu'on peut jouer?
Oui, on va écouter Guerre froide, c'est un groupe français, avec la pièce Ersatz, et sorti en 1983. On écoute ça pour terminer.
Et oui.
Quand plus rien ne m'étonne, je flotte avec la folie.
Tendance au maquillage.
Le corps anti-s'y adonne, glisser vers une double vie.
La solution ultime.
De mon visage diaphane, le monde image s'efface.
Tendance au
qui ne laisse plus aucune trace.
La solution ultime.
Éclaté, se noie dans le blanc des yeux.
Tendance au maquillage.
Un regard désabusé qui cache l'écran ténébreux.
La solution ultime.
Un doute de déraison, un désir peu banal.
Tendance au maquillage.
Sourire de dérision, retour à la normale.
La solution ultime.
Pour le néant, plutôt pour le moment qui le précède. Et toujours ce goût pour le néant, plutôt pour le moment.
De retour sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Vous écoutez le lendemain de la veille. Et Mathieu, le temps tire à sa fin. Ça passe tellement vite quand on est bien accompagné, bien guidé dans ces musiques que je connais plus ou moins. Merci de ta présence.
Hey, merci à toi de m'inviter.
Reviens anytime.
Ça va faire plaisir.
Anywhere. On a bien du stock encore à jaser.
Oui, mais
t'as encore beaucoup de tonnes. T'as beaucoup de tonnes dans ton sac. Et ouais, fait que, reviens vite et restez sur les ondes de CKUT 90.3. Il y a d'autres bonnes émissions et il y a de la musique latine qui s'en vient. Au revoir.
Bye.
Politica is thrilled to announce the theatrical release of Dear Jackie, a feature documentary by Henri Pardo. The film opens on June 17 in 4 theaters in Montreal: Cinéma Public, Cinéma du Musée, Cinémathèque Québécoise, and Cinéma Moderne, with the director and special guest in attendance at select screenings. Dear Jackie poetically tells the story of one of the oldest black communities in Canada, Montreal's Little Burgundy, by way of a cinematic letter to Jackie Robinson, the first black man to break the color barrier in professional baseball. It also masterfully connects history to the present by challenging the myth of a post-racial society. This release is co-presented by Desta Black Youth Network, Tyndale St. George's Community Center, Canteen Bergs, and Makisia Solo. For more information and tickets, visit cinemapolitica.org. We hope to see you there. This is a CKUT co-presentation.
Lorsqu'on ne paye pas pour un produit, on est le produit. Particulièrement dans le cas de l'hébergement des courriels et des sites web où les compagnies multinationales se battent pour les profits produits par les magnifiques communications de vos organisations. Kumbit est une coopérative de travail qui essaye d'aider les petites organisations ou les particuliers à se réapproprier leurs communications par l'hébergement de courriels et de sites web, ainsi que par la création de sites web. Si c'est votre désir,